VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
John Lyndon en direct du studio 9 de VOA Afrique à Washington. Bonsoir à tous. Le Monde aujourd'hui, édition du mercredi 20 décembre 2017. À la une ce soir, à Ouganda, le Parlement fait sauter le verrou de la limite d'âge, ce qui permettra au président Museveni de briguer un sixième mandat. Au Cameroun, plusieurs journalistes sanctionnés par le Conseil national de la communication pour questions d'éthique et de déontologie. En Côte d'Ivoire, les transporteurs sont en colère contre le gouvernement qui vient de limiter l'âge des véhicules importés. Congo-Brazzaville, l'inquiétude plane sur l'avenir de nombreux réfugiés rwandais qui pourraient perdre leur statut.
Certains considèrent que ces réfugiés rwandais ont quitté le Rwanda suite au génocide de 94, mais il a surtout oublié de considérer que ces mêmes réfugiés ont surtout subi le génocide qui s'est passé en République démocratique du Congo.
Ici, aux États-Unis, le Congrès a voté le texte sur la réforme fiscale, donnant une victoire historique au président Donald Trump. Et dans 10 minutes, l'économie et le sport. Mais tout d'abord, le journal. Bonsoir à tous. Au Mali, les services de renseignement ont mis la main sur un informateur et recruteur présumé du Front de libération du Massina FLM. Sékou Boli a été arrêté dans la région de Kaï. Selon la DGSE, il s'apprêtait à faire l'implantation du FLM dans la région de Kaï. Kassim Traoré.
Kaï est la première région administrative du Mali. Elle fait frontière avec le Sénégal et la Mauritanie. Mais depuis un certain temps, il y a des informations qui circulaient sur la présence des djihadistes dans la région de Kaï. Face à la persistance des rumeurs, la DGSE malienne était à pied d'œuvre. C'est ainsi que ces éléments ont procédé à l'arrestation d'un cerveau du groupe terroriste sévissant dans la région de Kaï ce mardi 19 décembre 2017. Sékou Boli, puisque c'est de lui qu'il s'agit, est un marabout résident à Nara. Il est l'informateur recruteur au profit du Front de libération du Massina. Il a participé à l'embuscade contre le préfet de Nara en renseignant les lieutenants terroristes du Front de libération du Massina sur le déplacement du convoi et ceux des militaires maliens. En plus, il renseigne régulièrement sur les positions des FAMA dans les secteurs de Nara et au-delà. L'intéressé est très important dans la machine de mise en œuvre de planification des actions terroristes dans les secteurs de Nara, de Mourouja à Gumbu en passant par Guiré et Sokolo. C'est à ce titre qu'il a un contact régulier avec les chefs des secteurs terroristes du Front de libération. Son arrestation représente aujourd'hui un grand coup dur pour ces groupes du Front de libération du Massina. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
En Côte d'Ivoire, les professeurs de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, la principale université du pays, ont repris le travail ce mercredi après une semaine de grève et ont obtenu satisfaction sur le paiement d'heures supplémentaires. Les heures supplémentaires effectuées durant l'année 2015-2016 ont été intégralement réglées, a expliqué Kwasi Zamina Johnson, secrétaire général et porte-parole de la Coordination nationale des enseignants-chercheurs et chercheurs de Côte d'Ivoire. Au Nigeria, plusieurs gouverneurs se sont opposés au projet du gouvernement d'octroyer $1 milliard supplémentaires générés par les fonds d'excédents pétroliers pour aider à la lutte contre le groupe djihadiste Boko Haram. Ce projet suscite la controverse dans le pays. La Fédération internationale des droits de l'homme accuse les forces de sécurité congolaises et une milice soutenue par l'armée d'avoir planifié des massacres relevant de crimes contre l'humanité contre une ethnie du Kasaï. Les populations ont été victimes de massacres à grande échelle, d'exécutions sommaires, des mutilations, a déclaré Terina Djerolon, responsable à la FIDH lors de la publication à Paris d'un rapport réalisé avec ses organisations partenaires en RDC. Selon l'organisation, des éléments de Kamuina-Nzapu ont aussi perpétré des graves exactions, notamment des exécutions sommaires, souvent sous la forme des décapitations. Un civil a été tué lors de l'assaut d'un groupe armé contre le chantier d'une centrale hydroélectrique dans le parc de Virunga, en République démocratique du Congo. L'attaque visait le chantier de la centrale de Louviro à Ivongu, dans le nord Kivu. Au Cameroun, le Conseil national de la communication chargé de la régulation de la presse a annoncé hier soir une série de sanctions sévères contre des médias et des journalistes. Les précisions avec Arzuma Compaoré.
La Tribune de l'Est, économie, écope de la sanction la plus lourde. Son directeur de publication, Roger Chantal Thuilé, est définitivement interdit d'exercer la profession de journaliste et de directeur de publication. Le Conseil lui reproche des atteintes récurrentes à l'éthique et à la déontologie professionnelle dans une série d'articles relatifs à la gestion de la Caisse publique de sécurité sociale. Son confrère du journal Le Devoir Libre, Harris Robert Mintiameka, est interdit d'exercice pendant 6 mois. Il a publié, selon le CNC, des informations non fondées imputant des malversations diverses au directeur d'un projet hydroélectrique. Jean-Pierre Amungu Belinga, en tant que directeur de la publication, et les journalistes Ernest Omanana et Sidouane Lekou Monkam de la télévision privée Vision 4 ont également été frappés par une suspension de 2 mois. Ils sont sanctionnés pour la diffusion de propos et des images compromettantes d'un plaignant présenté nu à l'antenne.
Nous reviendrons d'ailleurs sur cette actualité dans notre partie magazine. Les députés ougandais ont voté en faveur du projet de loi controversé sur la limite d'âge présidentiel, ouvrant la voie à un vote final qui permettra au président Yoweri Museveni de briguer un 6e mandat. Nathalie Barge.
Dans une session parlementaire diffusée en direct sur le site web du Daily Monitor, le projet de loi a recueilli 317 votes pour et 97 contre, atteignant la majorité requise des 2/3. Le projet de loi sera soumis à une 3e lecture, a rapporté NTV Ouganda sur son compte Twitter. Le texte a été présenté au Parlement par le député d'Igara West, Raphaël Magiezi, et soutenu par le Mouvement national de la résistance au pouvoir. Il sera débattu article par article et les députés NRM poussent pour un vote final ce mercredi.
Le président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa a réitéré devant les parlementaires son appel aux investisseurs étrangers à revenir dans son pays en leur promettant une économie transparente et débarrassée de la corruption. Robert Mugabe a laissé derrière lui un Zimbabwe ruiné par la faillite de son économie et les sanctions imposées par la communauté internationale en représailles à ses violations des droits de l'homme. Son successeur s'est engagé à redresser le pays au bord de l'asphyxie financière et frappé par une forte inflation et un taux de chômage très élevé. En Égypte, 5 djihadistes présumés ont été tués par les forces égyptiennes dans le nord Sinaï, où une attaque avait coûté la vie à 2 officiers la veille. Le groupe État islamique a revendiqué l'attaque d'hier et déclaré qu'elle visait les ministres de la Défense, de l'Intérieur en visite dans la région. Aucun d'eux n'a été blessé, mais un officier y a perdu la vie.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le Congrès des États-Unis a définitivement adopté mercredi la plus grande baisse d'impôts depuis 31 ans. C'est une victoire de taille pour le président Donald Trump, 11 mois après son accession au pouvoir. Le point avec Raïssa Girondin.
La Chambre des représentants à majorité républicaine a revoté sans suspense par 224 voix contre 201. Elle avait déjà adopté le texte final mardi, mais le Sénat a corrigé hier quelques articles, forçant la Chambre à refaire le vote aujourd'hui. Le texte final doit être promulgué par le président Trump. Le président américain a donc réussi son pari de réduction massive des impôts. Il avait promis de simplifier le code fédéral des impôts avec une baisse historique du taux d'imposition pour les entreprises et pour les ménages américains. Selon Donald Trump, cela permettra de réduire la facture fiscale de l'ordre de 1500 milliards de dollars. Pour la sénatrice démocrate Elizabeth Warren, cette refonte n'est pas un cadeau de Noël, mais un braquage qui prendra des millions à la classe moyenne pour les donner aux riches.
Élection en Catalogne demain. Quelques 5,5 millions d'électeurs sont appelés aux urnes. Madrid a pris une série de mesures contre la désinformation. Éric Manera-Kiza.
Dès la fermeture des bureaux de vote demain, le décompte des bulletins papier glissés dans des enveloppes se fera manuellement. Les résultats seront annoncés par Indra, une société privée qui a la charge de les collecter, les compiler et les annoncer au public au fur et à mesure de leur transmission. Le décompte officiel des bulletins commencera le 24 décembre pour durer au maximum 3 jours. Madrid a évité un processus informatisé pour écarter toute attaque informatique. L'association indépendantiste catalane va déployer dans les bureaux de vote 4 000 volontaires pour surveiller le dépouillement. Madrid est soucieux de limiter la désinformation pendant ou après le scrutin et a mis en place un système de repérage de fausses nouvelles. Tout média diffusant ce genre d'informations sera tenu pénalement responsable et les sites web pourraient être bloqués.
Voilà ce qu'on pouvait dire pour ce journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Place à la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Eric Malirakiza.
Le Mali reçoit plus de 19 milliards de francs CFA pour appuyer le développement des exploitants agricoles, des petites et moyennes entreprises, des petites et moyennes industries, des institutions de microfinance. L'Agence française de développement passe par la Banque nationale pour le développement agricole du Mali pour réaliser ce projet dans le cadre de l'Alliance pour le Sahel. Paris a promis d'augmenter d'un tiers son aide au développement de quelque 600 millions d'euros actuellement. En Guinée équatoriale, la compagnie aérienne espagnole Iberia veut suspendre définitivement ses vols de Madrid à Malabo. Iberia dénonce les taxes aéroportuaires élevées, le coût du carburant et le manque à gagner sur cette ligne. Le premier ministre Francisco Pascual Obama Asue a demandé à ses acteurs économiques d'appliquer les prix reconnus par le gouvernement pour permettre à Iberia de revenir sur sa décision. Enfin, la baisse d'impôts aux États-Unis, 1 500 milliards de dollars de réduction d'impôts fédéraux sur les sociétés et sur le revenu dès 2018. Les Républicains affirmaient que cette réforme poussera durablement la croissance au-delà de 3 % pour générer de nouvelles rentrées fiscales. Pour les démocrates, la refonte fiscale profitera aux entreprises et aux plus riches.
Nicolas Pinault est dans ce studio et c'est pour nous parler de sport. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir John, bonsoir à tous.
Alors on commence avec la CAF, le président de la CAF, toujours incertain quant à la CAN 2019 au Cameroun.
Le président de la Confédération africaine de football, Armat, s'est montré à la fois rassurant et menaçant sur l'organisation de cette CAN 2019 par le Cameroun. C'était hier lors d'une visite à Abidjan. Armat a ajouté qu'il ne reculerait pas sur l'élargissement à 24 participants. On rappelle que début août, Armat avait jugé que le Cameroun n'était pas prêt, suscitant une polémique. On écoute le président de la Confédération africaine de football.
Les autorités du pays, jusqu'au sommet de l'État, ils nous ont toujours confirmé qu'ils seront prêts. On laisse au pays de travailler avec un cadre député indépendant, sans influence de qui que ce soit. C'est à eux de nous fournir les éléments qui nous permettra après de dire que le Cameroun sera prêt ou le Cameroun ne sera pas prêt, mais on ne négocie en rien. Si le pays qui l'accueille n'arrive pas à l'organiser, nous trouverons un pays qui va organiser.
Le président de la CAF, Armat, hier en visite à Abidjan.
En Coupe d'Allemagne, le choc aujourd'hui est entre le Bayern et Dortmund.
À l'Allianz Arena, les Bavarois auront toutes les raisons de redouter le Borussia Dortmund qui s'est imposé à Munich lors de ses deux dernières visites dans cette compétition. Pour ce huitième de finale, à noter que le Bayern Munich vient d'engranger 14 victoires en 15 matchs depuis le retour de Jupp Heynckes sur le banc. Et caracole en tête du championnat avec 11 points d'avance sur Schalke 04.
Qualification de Manchester City et Arsenal pour les demi-finales de la Coupe de la Ligue anglaise, Nicolas.
Manchester City, leader intouchable de la Première Ligue, a dû s'employer jusqu'au tir au but à Leicester pour obtenir son ticket pour les demi-finales de cette Coupe de la Ligue anglaise et rejoindre Arsenal, vainqueur de West Ham, 1-0 hier soir. Ce mercredi, Manchester United se déplace à Bristol, club de deuxième division, alors que Chelsea, le champion d'Angleterre en titre, accueille Bournemouth.
Et on va terminer par la NBA, le championnat de basket nord-américain.
Les Kings de Sacramento qui ont battu Philadelphie 101-95, la Nouvelle-Orléans battue 101-116 par les Wizards de Washington, enfin Cleveland battue par Milwaukee de justesse 116-119.
Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes sur VOA Afrique et vous écoutez Le Monde aujourd'hui présenté par John Linden, mise en onde de Georges Léonard Sagno, place à présent au dossier du jour. En République du Congo, une clause de cessation du statut de réfugié va entrer en vigueur le 31 décembre 2017. Cette clause menace notamment les réfugiés rwandais qui vont perdre leur statut, dénonce l'association belge Système, membre de la plateforme SOS Réfugiés, dont l'objectif est de venir en aide aux réfugiés rwandais partout dans le monde. Pour plus de détails, Claire Morin-Gibourg a joint la porte-parole de l'association Système, Delphine Daninassa.
Il se trouve que donc l'OACR en 2011 a convoqué les pays donc, qui hébergent les réfugiés rwandais en leur proposant donc de mettre fin au statut des réfugiés parce que les raisons, donc selon l'OACR, les raisons pour lesquelles ces réfugiés sont partis du Rwanda n'avaient plus lieu d'être. Le problème, c'est que le postulat émis par l'OACR est erroné parce que l'OACR considère que ces réfugiés rwandais ont quitté le Rwanda suite au génocide de 1994, mais il a surtout oublié de considérer que ces mêmes réfugiés ont surtout subi le génocide qui s'est passé en République démocratique du Congo en 1996, 1997, 1998, quand le Rwanda attaquait les camps de réfugiés donc, qui s'y trouvaient.
Qu'est-ce qui vous préoccupe le plus concernant le sort de ces réfugiés ?
Ce qui me préoccupe le plus, c'est que ces réfugiés vont perdre leur statut et que quand l'OACR a mis en place cette démarche, l'OACR n'a pas associé les réfugiés à la mise en place donc de la clause de cessation. L'OACR a juste vu avec le Rwanda, les pays hôtes, à aucun cas, ils ont pris en compte les aspirations des réfugiés. Aujourd'hui, les réfugiés rwandais, que ce soit au Congo-Brazzaville, que ce soit au Malawi, en Mozambique, se retrouvent entre le choix de repartir au Rwanda ou de prendre le passeport rwandais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'OACR demande aux réfugiés rwandais de renoncer eux-mêmes à leur statut de réfugié. Parce qu'au fait, la plupart des Rwandais aujourd'hui, en tout cas, c'est par exemple c'est le cas au Congo, sur 9000 qui sont réfugiés rwandais qui sont au Congo-Brazzaville, il y a juste 11 qui ont accepté cette option-là. Les autres refusent. Ils ne se sentent pas en mesure de retourner au Rwanda pour le moment ou à redevenir juste citoyen rwandais. Ils préfèrent rester réfugiés, ils veulent rester au Congo, mais sous condition qu'on leur donne un cadre de séjour au Congo, mais sans détenir le passeport rwandais, parce que détenir le passeport rwandais, ça veut dire se réclamer de la protection de l'État rwandais. Et aujourd'hui, ils considèrent que l'État rwandais n'est pas en mesure de les protéger, parce que c'est ce même État qu'ils ont fui. Le Rwanda, toujours dirigé par Paul Kagame, qui était là en 97. Le Rwanda, dont le numéro 2 est M. Kabale James, qui est le numéro 2 de l'État rwandais aujourd'hui, et c'était lui qui menait les opérations donc en 96-97 dans les forêts du Congo. Donc ce sont ces mêmes personnes qui les ont massacrées, qui sont censées les protéger aujourd'hui, et les Rwandais, les réfugiés rwandais en tout cas ne sont pas d'accord.
Qu'est-ce qu'il faudrait que le HCR mette en place selon vous ?
En fait, aujourd'hui, nous ce qu'on demande au HCR, ce qu'on demande surtout à l'État du Congo, c'est de reporter la date du 31 décembre 2017 et de s'asseoir avec les réfugiés et d'essayer de trouver une solution qui conviennent aux réfugiés, qui conviennent bien sûr à l'État rwandais, parce que c'est quand même l'État rwandais qui souhaite ne plus avoir de réfugiés à l'extérieur, parce que ça incarne un peu son image.
C'était Delphine Danissa, porte-parole de l'association Système.
Dans Washington's Forum, ce jeudi 21 décembre, en Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa a été choisi pour remplacer Jacob Zuma à la tête de l'ANC. Quel changement pour le parti au pouvoir ? A-t-il des chances de gagner les prochaines élections ? Quel impact sur l'avenir de l'Afrique du Sud ? Laissez-nous vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Rendez-vous ce jeudi à 19h en temps universel avec Ekia Badou et ses invités.
Le Conseil national de la communication au Cameroun a annoncé une série de sanctions contre des médias et des journalistes. Le directeur de publication de la Tribune de l'Est Économie s'est vu définitivement interdit d'exercer la profession de journaliste et des directeurs de publication. Le directeur du journal Le Devoir Libre a quant à lui été frappé d'une interdiction d'exercice pendant 6 mois. Solange Niamoulissa a joint Peter Essoka, président du Conseil national de la communication, pour un état de lieu.
Le rôle du Conseil national de la communication, c'est pour veiller sur l'éthique et la déontologie dans la profession de journalisme. Alors, quand les organes de presse ne prennent pas leurs responsabilités pour faire ce qu'ils doivent faire, après tous les conseils, après toutes les auditions et tous les séminaires que nous avons tenus, bon, l'une de ces choses qu'on doit faire, c'est soit de l'avertir, soit de les sanctionner. Et les sanctions passent d'1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois et peut-être définitivement. Donc, si à un certain moment, un organe de presse est sanctionné, c'est parce qu'il ne respecte pas l'éthique et la déontologie de la profession.
Quelles sont les mesures prises pour être sûr que les sanctions vont être respectées? On a vu ce matin les journalistes de Vision 4 présenter une émission qui a été aussi suspendue.
Il y a des mesures, des prévisions du décret qui crée le Conseil. Normalement, le Conseil prend les décisions. Mais pour exécuter, c'est le ministère de l'administration territoriale. Donc, on passe les décisions vers ce ministère et les administrateurs de différentes régions sont là pour exécuter les décisions du Conseil. Mais si un organe de presse refuse de respecter, bon, ce n'est plus le problème du Conseil parce que le Conseil a pris ses décisions.
Cinq journalistes suspendus au même moment. Est-ce que cela ne prouve pas qu'il y a un problème au niveau des médias au Cameroun?
Bien sûr, il y a des problèmes. Il y a des problèmes. C'est pourquoi je parlais tout à l'heure de l'éthique et la déontologie. Mais nous avons un problème aussi de formation. Il y a beaucoup de journalistes au Cameroun qui ne sont pas formés. Chacun se lève un jour, il crée un journal. Il y a quand même des règles d'opération d'un journal. Mais si un journal ne fait pas ce qu'il devait faire, il y a des sanctions. Il y a un petit problème aussi de ceux qui donnent les licences pour que ces journaux ou bien les télévisions opèrent. Donc le jour où il y aura ordre, on n'aura plus de sanctions.
Peter Essoka, président du Conseil national de la communication du Cameroun.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
Le Burkina a interdit les importations en provenance de Corée du Nord, décision prise à la suite d'une interpellation des États-Unis en octobre. Elle se conforme aux résolutions de l'ONU interdisant toute activité commerciale avec Pyongyang, sanctionnée pour ses essais nucléaires. Eric Manerakiza a joint à Ouagadougou le ministre des Affaires étrangères, Alpha Barry.
On ne s'était même pas rendu compte qu'il y avait réellement des importations venant de Corée du Nord. Lorsque on a vu quelques articles, notamment dans la presse américaine, nous avons diligenté une enquête. Notamment, moi, j'ai écrit à mes collègues du commerce et des finances. Et on a constaté effectivement que pour l'année 2017, de janvier jusqu'au mois d'août, on était à environ 7 millions de dollars d'importation. Et qu'en 2015, ces importations avait même atteint 38 millions de dollars. Ça concerne divers produits, mais essentiellement des produits pétroliers.
Est-ce que la décision s'applique même aux importations qui seraient en cours?
C'est une décision avec effet immédiat et donc s'applique avec tout ce qui est en cours. Donc nous avons décidé que tout devrait s'arrêter pour être vraiment conforme à la réglementation internationale, notamment aux résolutions du Conseil de sécurité.
Mais pour des importations en cours, est-ce que ce n'est pas pénalisé doublement?
De toutes les façons, la résolution des Nations Unies offre une souplesse à ce niveau, avec délai quand il y a des choses sont en cours et lorsque la décision est prise. Donc, à ce niveau, il n'y a pas de problème. Nous allons donc observer cette souplesse qui est contenue dans la résolution elle-même et qui permet que des transactions, des importations qui sont en cours puissent se dérouler normalement. Mais il n'y a plus de nouvelles demandes d'importation comme cela s'est fait au ministère du Commerce du Burkina, ce qu'on appelle les DPI, les déclarations préalables d'importation. Tout ça, c'est interdit maintenant.
Le marché nord-coréen est donc suspendu. Est-ce que vous avez offert d'autres alternatives aux commerçants, par exemple, qui se dirigeaient vers la Corée du Nord?
En dehors de 2015, où il y a eu quand même un pic assez important, jusqu'à 38 millions de dollars d'importation, sinon les hommes d'affaires peuvent bien s'orienter vers d'autres horizons, comme dans l'Asie du Sud-Est ou en Chine et autres. Vous savez, les hommes d'affaires ont le secret que nous, on n'a pas forcément. Donc, ils seront se débrouiller.
Il n'y aura pas donc aucun impact sur le pays.
Nous ne le pensons pas. Nous ne pensons pas parce que le fait qu'il y ait eu des importations de produits pétroliers en 2015, mais en 2016, il n'y en a pas eu. En 2017, il n'y en a pas eu principalement. Donc, ça ne devrait pas jouer sur le niveau de consommation au niveau du pays.
Alpha Barry, ministre burkinabé des Affaires étrangères.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, c'est bien sûr VOA Afrique, 24h sur 24.
En Côte d'Ivoire, les transporteurs ne sont pas contents. La raison de leur indignation, des mesures prises il y a quelques jours par le gouvernement pour limiter l'âge des véhicules importés. Notre correspondant Georges Ibrahim Tunkara est allé à leur rencontre. Reportage.
La pilule est difficile à avaler chez les transporteurs. Désormais, ils ne pourront importer que des véhicules de 5 ans maximum pour en faire des taxis, 7 ans pour les mini-cars et 10 ans pour les cars de plus de 34 places et les camions de plus de 10 tonnes. Une mesure qui vise, selon le gouvernement, à lutter contre les accidents de la route et le réchauffement climatique. Touré Adama est le président de la Coordination nationale des gares routières de Côte d'Ivoire. Il dénonce cette décision.
Une décision incongrue que nous dénonçons et que nous demandons vraiment purement et simplement le retrait parce que nous n'avons pas demandé à l'État de nous donner de l'argent pour avoir nos véhicules. Nous avons souffert pendant des décennies pour avoir le matériel roulant avec lequel nous payons plus de 300 milliards de francs CFA par an comme contribution dans les caisses de l'État. Il serait important que nous soyons assis autour d'une table et que nous leur disons nos problèmes et qu'ils comprennent et que ce ne soit pas parce qu'ils sont en train d'arranger leurs parents et leurs amis en leur octroyant des véhicules neufs que nous qui avons le plus grand nombre de véhicules en Côte d'Ivoire, nous puissions être cloués au pilori simplement parce qu'aujourd'hui, on croit qu'on est assis et qu'on a les moyens de faire ce qu'on veut.
Les importateurs et revendeurs de véhicules d'occasion sont eux aussi vent debout contre cette mesure du gouvernement ivoirien. Alain Serge Kouassi.
Vu qu'on n'a pas de chiffre d'affaires en tant que tel, nous nous débrouillons, donc ça serait vraiment pénible pour nous. Nous ne pourrons plus importer des voitures et ça serait très difficile, très très difficile. Beaucoup de parcs vont fermer.
Certains importateurs et revendeurs disent cependant approuver la mesure de restriction. Amadou Doumbia.
Ce n'est pas du tout nouveau, c'est une décision prise il y a près de 20 ans de cela. Mais la Côte d'Ivoire n'a pas voulu la mettre en application. Sinon, d'autres pays africains ont déjà commencé à mettre ça en application. Le Ghana, le Sénégal, la Tunisie et d'autres pays, il y a des véhicules de plus de 5 ans n'y entrent pas. Si on le fait aujourd'hui, que nous sommes dans une mondialisation où on parle de gaz à effet de serre, il faudrait bien que la Côte d'Ivoire se mette à jour.
Pour Amadou Doumbia, il faudra en revanche que l'État renonce à certaines taxes douanières.
Il va falloir négocier pour enlever certaines taxes sur les véhicules qui arrivent. Et comme ça, ça va amoindrir le coût sur le terrain. Mais si on maintient les taxes, c'est sûr que les véhicules seront plus chers.
Pour le président de la Coordination nationale des gares routières de Côte d'Ivoire, le gouvernement devrait s'inspirer de l'exemple du Sénégal. Touré Adama.
Il y a des pays frères comme le Sénégal qui ont eu la chance d'avoir des financements de la Banque mondiale, mais qui sont venus simplement sur le lieu d'embarquement et de débarquement des passagers pour recenser les véhicules que la population utilise. Les véhicules de 40 places, de 30 places sont là. Ils sont fatigués, plus de 30 ans, ils roulent. Mais vous ne venez pas les recenser dans les gares routières pour les remplacer. Vous vous enfermez, vous sortez 100 taxis, vous sortez 50 taxis, vous faites la fête pour dire qu'on a donné. Vous payez des bus pour la Sotra. Mais est-ce que la Sotra peut transporter toute la population abidjanaise?
La mesure a certes été adoptée par le gouvernement, mais de nombreux Ivoiriens se montrent sceptiques quant à son application. Ils disent simplement être habitués aux mesures sans suite. Georges Ibrahim Tunkara, Abidjan, VOA Afrique.
C'est la fin de cette édition du Monde aujourd'hui, mise à nom de par Georges Léonard Sagnot. Wagner Roberts, notre ingénieur fantastique, était à la console. Présentation, John Lyndon. Merci à toute la rédaction pour sa collaboration et à vous pour votre fidélité au programme de VOA Afrique. L'actualité en continu, c'est sur notre page Facebook et sur voafrique.com. Excellente soirée à toutes et à tous. Dans un instant, juste après moi, ce sera le dialogue des religions avec Eric Manirer-Kiza. Noël approche, il en parlera.